Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Le livre des psaumes, s'il vous plaît, on va faire deux lectures. Alors, ça va être très bref, mais précis. Et on va aller dans une méditation un peu particulière, comme à chaque fois d'ailleurs. On est toujours en découverte de ce que peut nous dire, nous enseigner la Bible, la parole de Dieu. Et cela dans un but bien précis, eh bien, c'est que nous puissions voir notre foi grandir et prendre des victoires, tout simplement. Parce que ce que Dieu dit, eh bien, il l'accomplit. Alors, c'est à nous de le saisir, de le croire de tout notre cœur. Alors, un verset dans le psaume 32, au chapitre 32, et nous allons lire un seul verset, et nous tournerons ensuite une page dans un autre psaume. Psaume 32. Le verset 3. C'est David qui parle et qui s'exprime. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Alors je voudrais dire tout simplement qu'il y a un contexte, une forte culpabilité chez David. Si vous connaissez le psaume et si vous le relisez, vous comprendrez qu'il était profondément malheureux parce que il avait commis de grossières erreurs et puis ça l'avait rendu malade en quelque sorte. Eh bien, le mal qu'il avait commis, le péché, alors qu'il se résumait tout simplement, c'était peu, c'était pas quand même une petite chose, il était parti avec une autre femme, une femme qui était mariée, il avait fait tuer son mari, et puis pendant à peu près une année, il a menti à tout le monde. Alors, on comprend qu'il pouvait dire cela, mais je voudrais étendre notre réflexion sur bien d'autres domaines, où il est question, justement, comme David le dit, tant que je me suis tu, c'est-à-dire, tant que véritablement nous sommes renfermés dans cette prison du silence, eh bien, on peut dire comme lui, je gémissais toute la journée. Alors, on va aller bien au-delà, naturellement, de ce contexte qui préoccupait David, et nous allons aller donc voir que, quelquefois, le silence, eh bien, nous rend profondément malheureux. Silence que nous nous imposons à nous-mêmes, pour différentes raisons, ce que nous allons voir. Et puis peut-être le silence des autres, quand ils ne nous disent rien, ou quand nous nous sentons abandonnés, quand nous nous sentons lâchés, peut-être même trahis. Et tout simplement, la méditation que nous allons développer maintenant, c'est, j'ai donné un titre, le silence et les cris. Alors c'est complètement à l'opposé, et nous allons voir ce qu'il en retourne. Et puis également le psaume 34, où il est dit cette parole au verset 7, et là aussi vous connaissez très bien, c'est souvent une citation fréquente, quand il est dit ceci, « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Alors, il peut y avoir notre propre silence, il peut y avoir le silence des autres, mais vous avez remarqué avec moi, c'est que quand un malheureux crie, alors à ce moment-là, il y a quelqu'un qui l'entend. S'il n'est pas entendu d'en bas, il est entendu d'en haut. Et ça, c'est quelque chose, donc, quand même intéressant. Alors, pour aller un petit peu plus loin, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons voir les raisons diverses du silence. Et ça peut être, très varié. Je laisse de côté le cas spécifique de David, une épouvantable culpabilité qui faisait qu'il ne voulait pas en parler de son histoire. Alors, il était malheureux, naturellement, il gémissait. Et il y a un proverbe qui dit ceci, c'est un proverbe français, qu'on connaît pas trop, enfin moins que vous le connaissiez. Il est dit ceci dans ce proverbe, « Le silence est l'âme des choses ». Ça veut dire tout simplement que le silence a une réalité derrière. Et tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on va le voir, il y a quelque chose qui caractérise soit des détresses, soit des péchés, comme on le voit pour David. Le silence est l'âme des choses. Il y a naturellement quelque chose d'invisible, mais qui fait que, on se tait, on n'ouvre pas la bouche, on ne dit pas, on ne partage pas pour différentes raisons. Donc le silence a sa nature, Et il a aussi son caractère que nous allons maintenant dévoiler et partager ensemble. Le silence est une loi. Vous savez que dans le monde politique, dans le monde également de certaines, comment pourrait-on dire, sociétés de malfaisance. Il y a une société en Italie, et puis il n'y a pas qu'en Italie, parce que chaque pays a sa... J'ose pas le dire. Hein, il y a la loi du silence. Voilà, l'omerta et voilà tout ce que l'on veut. Alors, ça évoque naturellement le mutisme, autant pour les honnêtes gens que pour ceux qui sont certainement moins recommandables. Ça peut aussi avoir, comme pour David, la honte. Voilà. Alors on ne dit rien parce qu'on a honte. C'est l'enfermement pour David aussi dans la culpabilité. David, il était roi, il se disait, moi je suis roi, mais bon, c'est en raison de ma position, qu'est-ce que l'on va penser de moi, moi le roi. C'est de l'inhibition, c'est-à-dire qu'on garde ça à l'intérieur, et comme il le dit, mais je gémissais toute la journée. Parce que s'il avait parlé, il va parler à un moment donné, et puis il va être libéré. Parce qu'il s'aperçoit que quand on parle, eh bien il y a la confession. Et à partir du moment où il y a confession, non pas auprès de n'importe quelle oreille, mais auprès de Dieu, eh bien moi je vous dis que la grâce prévaut sur le jugement. Et donc inhibition. Et puis il y a des silences qui sont des silences pleins de respect à l'égard de Dieu ou à l'égard des hommes, à l'égard de certaines circonstances, c'est ce qu'on appelle le recueillement. Et dans certaines commémorations, dans certaines situations, eh bien on fait une minute de silence parce qu'on pense intensément. On réfléchit à l'histoire, à un tel qui a disparu, etc., etc. Et puis, il y a encore un autre aspect. On a parlé de David qui était coupable. Et on sait comment il a trouvé grâce auprès de Dieu parce qu'il a parlé. Mes os se desséchaient comme la chaleur de l'été, dira-t-il un petit peu plus loin. Il était malheureux, hein, très, très malheureux. Puis moi, je voudrais aborder aussi ce soir ce que l'on peut appeler le silence des innocents. Parce qu'il y a les coupables. Mais il y a aussi des innocents profondément malheureux en raison de toutes sortes de violations. Et on s'aperçoit que la société n'est pas toujours à l'écoute des victimes. Elle n'est pas toujours propice à écouter ceux qui, finalement, ont quelque chose à dire et qui seraient libérateurs. Et on a même vu des choses complètement aberrantes, hein, de gens qui étaient profondément victimes et on les a accusés en plus d'avoir parlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y avait une Danoise ou Finlandaise qui était en Arabie Saoudite et qui a été violée par des hommes ou un homme. Et quand elle a voulu porter plainte, on l'a mis en prison, elle. Voilà, c'était tout un tollé diplomatique entre, je crois, là, en Scandinavie et puis avec... parce qu'elle avait parlé. Voilà, elle était victime, tout simplement. Alors c'est terrible des choses pareilles, hein. Le silence des innocents, de ceux qui n'ont pas suffisamment de force pour parler, c'est quelque chose, les victimes. Et c'est très difficile dans le monde dans lequel nous vivons, un monde qui est très trouble, il faut bien le dire. On ne sait plus où est la frontière entre la justice et l'injustice, entre le bien et le mal, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et il y a beaucoup de gens, certainement, dans l'histoire, qui ont été tributaires de tout cela. Alors, on prend le parti de se taire, on ne dit rien et on porte ça toute sa vie, au fond de soi. Ce qu'on pourrait appeler les malgré eux, ceux qui sont contraints de certaines choses. Alors j'ai parlé des violences, des violentés, de ceux qui ont été bousculés et qui n'ont pu rien dire parce qu'ils avaient peur de représailles, ils avaient peur de jugement. Tous ceux qui ont été choqués, traumatisés, les attentats à la vie. Ceux qui ont été donc, maltraités ou attentats à la pudeur. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Et on en entend parler tous les jours de toutes ces choses-là. Le silence des innocents, c'est terrible. Que ce soit des enfants, ou que ce soit des jeunes gens ou des jeunes filles, ou quelquefois des gens plus âgés, naturellement. Alors, ceux qui ont été souillés involontairement, c'est-à-dire les victimes, tout simplement, du mal et de la méchanceté des autres, de l'injustice des autres. Ça, faut en tenir compte. Et on voit que dans les principes bibliques, il y a des règles, il y a des préceptes qui sont donnés pour la défense de ces gens-là. Alors, c'est vrai que quand on est en dehors d'une espérance en Dieu. À qui pouvez-vous vous adresser quand c'est comme ça? Vous savez, il y a des pays aujourd'hui, je pense qu'il ne fait certainement pas bon vivre, parce que c'est la loi du plus fort qui est la meilleure, hein. Que ce soit les paysans là d'Amérique du Sud, hein, que l'on a réduit complètement au silence parce qu'on a exproprié leur terrain, on a fait toutes sortes de choses, on en entend parler. Ou que ce soit peut-être en Asie du Sud-Est, hein, je pense à la Birmanie, c'est comme ça. Hein, ou dans d'autres pays pour des raisons religieuses aussi. Hein, il y a, je pense qu'il doit y avoir des millions et des millions de gens pour des raisons diverses. Eh bien, sont réduits au silence. Ce sont les innocents du silence. Et ça, c'est terrible. Alors, se taire. David, et j'ai choisi ce passage parce qu'il est quand même assez limpide. Tant que je me suis tu. Il avait de mauvaises raisons de se taire. Parce qu'il a vu comment ça pouvait se passer autrement. Mais il y a des gens qui sont contraints de se taire. On ne dit rien. Il faut supporter. Hein, parce que bon, c'est comme cela. Je pense que dans les conditions qu'il y a actuellement qui règnent dans les entreprises, même dans notre pays, il y a un spectre qui guette tout le monde, c'est le chômage. Monsieur, madame, si vous n'êtes pas content, je peux vous dire qu'il y en a 500, il y en a 1000 qui sont derrière vous, qui vont prendre votre place. Et eux, ils vont se taire. C'est terrible, hein. C'est un abus de pouvoir. C'est une offense à la personnalité, aux personnes. Alors se taire. C'est peut-être aussi garder, et nous l'avons déjà évoqué dans le silence des innocents, le secret d'une douleur qu'il ferait tellement bon de pouvoir partager. Alors c'est vrai qu'en matière de religion, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais il y a des confesseurs. Voilà, c'est aussi un mot que j'aime pas beaucoup. Mais nous l'avons vécu, et peut-être vous l'avez vécu vous aussi, vous avez des gens qui s'approchent de vous, des chrétiens, et qui vous disent, voilà, j'ai confiance en vous, et je voudrais vous dire ceci et cela. Moi, il m'est arrivé d'entendre des choses assez étonnantes, et des gens qui sont restés pendant des décennies, à porter un fardeau, et ils viennent vous voir en disant, je n'ai jamais pu le dire à personne, ni au plus proche, ni dans la famille, ni d'une façon ou d'une autre, parce que j'avais tellement peur d'être jugé, comme on a vu qu'il y a quelque chose qui peut être réversible. Quelquefois, on a vu et on a dit tout à l'heure que c'est quelquefois les victimes qui sont accusées. Tu n'avais qu'à te taire. Il ne fallait rien dire, il fallait garder ça. C'est difficile, hein? C'est une double peine. Déjà, il y a une blessure, il y a quelque chose de profondément injuste et de profondément mauvais, destructeur, mais en plus, eh bien, il faut le supporter en se taisant. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une société aujourd'hui, dès qu'il y a des traumatismes, on a toute une cohorte de psychologues, hein, voilà, il arrive ceci ou il arrive cela, vous allez être pris en charge. Bon, ce sont des moyens peut-être qui peuvent être utiles, je veux bien le croire. Mais nous sommes pas dans un monde où véritablement, eh bien, une confiance totale et complète peut s'établir. Alors, c'est du personnel naturellement médical, on peut saluer naturellement la raison d'être et ce qu'ils peuvent faire. Mais est-ce que tout cela, eh bien, est pleinement suffisant. Et ça s'adresse aussi à nous, parce que nous avons certainement une autre raison, comme David, de pouvoir dire les choses et de pouvoir en parler. Ceux qui sont naturellement en capacité d'entendre. Et moi je le dis toujours, et je le répète ce soir, on ne peut pas partager certains secrets, certains drames de notre vie, de notre existence, avec n'importe qui. Parce qu'il y a eu des retours en flamme. Hein. Ou là, en attendant un peu de compassion, surtout quand on est innocent, un peu de miséricorde, ou c'est le contraire qui s'est produit, hein. Et on s'est retrouvé quelquefois, eh bien, en quelque sorte, à la barre de l'accusé. Alors, il y a également dans le psaume 39, cette parole, parce que je crois qu'elle est très belle aussi, il est dit ceci. Et le psaume 39, on va voir qui est le souscripteur, eh bien, c'est David aussi. David est celui qui eh bien, a dit ces paroles, il dit ceci, « Je suis resté muet. » Alors, on l'avait vu dans le psaume 32, maintenant il le dit dans le psaume 39, « Je suis resté muet dans le silence. » Et certainement que David avait probablement, par-delà l'épisode du chapitre 32, eh bien, certainement des raisons, dans certains cas, de se taire. Et là, c'était certainement pas pour les mêmes causes. Parce que quand on sait qu'il a été poursuivi pendant des années par son adversaire, le roi Saül, quand on sait qu'il y avait des ennemis qui complotaient autour de lui, qui était là en train de l'épier pour essayer de le mettre dans une situation d'embarras avant d'être roi. Et ensuite, il a eu peut-être encore davantage d'ennemis quand il était roi. Alors, il pouvait certainement donner des explications à l'écriture de ces psaumes en disant « Voilà ce qui m'est arrivé. Alors, je suis resté muet. » Peut-être avait-il perdu ses moyens. Quelquefois, on est bouche bée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. On est tellement estomaqué que on est suffoqué, finalement, de certaines situations. Dans le silence, je me suis tu, dira-t-il, quoique malheureux. Quelquefois, le silence est un refuge. Dans certaines situations, tout dépend de la nature, finalement, eh bien, de notre traumatisme ou de notre blessure. Mais là, il dira, quoique malheureux. C'est difficile, hein. C'est une double peine, on peut dire. Hein. Et ma douleur n'en était pas moins vive. Quelquefois, on pourrait dire, je ne dis rien, je ne partagerai pas, parce que peut-être que ça va s'apaiser. Bon, il y a des choses qui peuvent être prises de ce sens et comprises de cette manière, mais quelquefois, eh bien, c'est pas ce qui se passe. Et il poursuit, il dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Tiraillé comme on peut l'être quand on est profondément blessé de l'intérieur, et ça ne se voit pas, finalement, aux yeux des autres, et c'est une douleur qui est encore beaucoup plus grave, beaucoup plus conséquente, parce que quand on a été blessé, qu'il y a des contusions, qu'il y a des blessures visibles, bon, bah, tout le monde le voit, ça c'est sûr. Mais je crois que ce qu'il y a encore de plus dramatique, c'est quand c'est à l'intérieur, quand notre cœur, Jésus le dira, il l'aura vu, hein, quand il dit « mais venez à moi, hein, les cœurs brisés, je suis venu pour les cœurs brisés, voilà ». Pour ceux qui sont dans cette pauvreté intérieure parce qu'ils ont été complètement laminés, écrasés. Alors mon cœur brûlait au-dedans de moi parce qu'il n'y avait pas de correspondant d'un secours ou d'un apaisement ou peut-être d'un rafraîchissement puisque ça brûle. Le feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue à ce moment-là. C'est le psaume 39 qui nous est donné à travers... Tout simplement, c'était au verset, parce que, voilà, verset 3, et un feu intérieur, donc la parole est venue sur ma langue. Éternel, dira-t-il, dis-moi quel est le terme de ta vie. Et c'est vrai que quand on est aux prises avec des grandes douleurs, intérieures, invisibles, des blessures, des meurtrissures dans l'âme, peut-être que quelquefois on peut dire, mais dis-moi la longueur de ma vie, si ça va durer longtemps tout ça. Dis-moi, et quelquefois on a envie de mourir, on a envie de partir. On dit, c'est insupportable. Alors dis-moi la longueur, le terme de ma vie, et quelle est la mesure de mes jours. Puis il ajoutera, mais pour comprendre combien je suis fragile. Vous savez, quand on a été touché de l'intérieur, ce sont des flèches qui sont ô combien douloureuses et meurtrières. Quelquefois, ça se fait par un moyen très simple, c'est la langue. Avec la langue, on peut faire vivre des gens. C'est l'encouragement, c'est l'exhortation, c'est la manifestation de l'affection, etc. Mais... on peut tuer aussi, hein, et la Bible y revient très souvent par rapport à cette arme criminelle meurtrière qu'est la langue. Au verset 13, il est dit, mais écoute ma prière, ô Éternel. David a eu le courage de le partager. Si nous ne pouvons pas le partager avec les hommes, en tous les cas, si ce n'est pas à l'horizontale, nous pouvons le partager à la verticale, c'est-à-dire, écoute ma prière, ô Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Oui, du silence, on passe au cri. Quand la pression est trop grande, quand les forces antagonistes, eh bien là, sont en choc à l'intérieur de nous-mêmes, ne sois pas insensible à mes larmes. Eh oui, on peut pleurer dans le silence, mais on peut pleurer aussi en criant. On peut hurler sa souffrance et sa douleur. Ce sont des choses, au moment où je vous parle, alors que nous sommes réunis, je veux croire, et malheureusement, le monde devrait être autrement, mais qu'il y a probablement dans les maisons, dans les foyers, dans les couples, dans les familles, dans les cliniques et les hôpitaux, dans toutes sortes de maisons que l'on pourrait appeler de refuge, d'une façon ou d'une autre, ou des maisons où il y a véritablement eh bien, tant de colère, tant de haine, qu'il y a probablement des gens qui sont là blessés à mort autour de nous, et on n'a pas besoin d'être adulte pour ça, ça peut être des enfants, et les blessures, attention, hein, elles auront des conséquences dans la construction de la personnalité. La manière dont on aura peut-être traité les uns et les autres. Alors, il faut parler. Mais comment parler? Comment dire? À qui le dire? Alors, le pourquoi le dire, on en connaît peut-être un petit peu les contours. Parce que, en parlant, on se libère. dans le contexte, je reviens au contexte religieux, traditionnel, eh bien, on permettait aux gens, et on le permet encore aujourd'hui, ça se fait pas chez nous, fort heureusement, mais on permet aux gens de pouvoir se répandre et dire les choses dans ce qu'on appelle un confessionnal. Alors, il est souvent attitré, il est souvent finalement dédié aux fautes et aux péchés. Mais je veux croire aussi qu'il y a aussi des écoutes, des oreilles compatissantes qui peuvent, au-delà des fautes et au-delà des erreurs que nous pouvons commettre, au-delà du mal que nous sommes capables de faire, il y a aussi, eh bien, pour ceux qui sont des victimes dans le silence, de pouvoir parler. Il faut s'ouvrir. Et c'est vrai que c'est une démarche qui demande du courage. Alors, si nous ne pouvons pas le faire et si nous n'avons peut-être pas le correspondant de faire avec nos semblables, en tous les cas, la suite va nous montrer qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Et vous savez que dans ces antithèses, il y en a 22, je crois, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, ou au chapitre 2, peu importe, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a cette parole, il y a un temps pour se taire, et il y a un temps pour parler. Et je pense que on ne sait jamais le temps quand il faut parler, le temps pour quand il faut se taire. Vous savez, il y a quelque chose qui revient très souvent dans les relations que les hommes peuvent avoir quand elles sont irritantes, tais-toi. Comme ça, le silence, ça met tout. C'est celui qui a l'autorité, hein, qui. Alors il y a naturellement le dominant et le dominé. Hein. Tais-toi. Voilà. On demande aux gens, on leur donne l'injonction de se taire. Mais ce temps, eh bien, il y en a qu'un qui peut nous le donner. C'est-à-dire, c'est Dieu qui peut nous ouvrir la porte. Hein. Et il mettra en face de la bonne personne, au bon moment, et dans les meilleures dispositions pour que véritablement, eh bien, cette démarche de confiance vis-à-vis de quelqu'un, cette confiance de foi vis-à-vis de Dieu, eh bien, soit véritablement, eh bien, efficace, elle soit efficiente. Alors, il faut parler, il faut s'ouvrir, et comme je le disais tout à l'heure, d'apprendre à pouvoir tout dire à Dieu à défaut de pouvoir le dire aux hommes. Quelquefois, ça passe par les hommes. Et les hommes, celui qui parle, celui qui s'ouvre, celui qui écoute, eh bien, vont se réunir pour prier ensemble, à deux, devant Dieu, comme s'ils sont trois. Mais c'est pas toujours forcément évident. Et je pense que il faut, quand cette démarche doit être entreprise, il y a une chose qui doit la motiver, non seulement la confiance, non seulement la foi, mais il faut espérer dans une délivrance. Parce que ça ne sert à rien de dire si finalement, eh bien, on n'a pas cette vision que derrière tout cela, eh bien, il y a une porte de sortie, il y a un remède. Il y a des gens qui ont été tellement blessés, tellement roulés, tellement trompés, qu'ils ne croient plus qu'il puisse y avoir quelque chose. C'est terrible, hein? Le Seigneur a déjà du mal avec nous, hein? Parce qu'il y en a un qui nous suggère toujours que n'est perdu, que c'est fini, il n'y a rien à faire, que c'est irrémédiable, notre péché est trop grand, ou que nous ne sommes rien, que nous ne valons pas la peine, et que quelque part, eh bien, ce qui m'arrive, même si je ne suis pas coupable, même si je suis une victime, c'est bien fait pour moi. Quelquefois, on se le dit à soi-même, hein. On se punit, on s'auto-punit. Mais il faut avoir cette espérance que derrière, il y a cela. David le dira dans son cas particulier de grande culpabilité. Il dira, mais tant que je me suis tu, c'est vrai que ça n'allait pas. Hein. Et on l'a tous vu, on l'a tous fait, même déjà tout petit, qu'à partir du moment où il y avait une petite chose, un petit défaut, et qu'à partir du moment où... Eh bien, nous avons dit les choses, on a été soulagés. C'est comme un fardeau qui tombe de nos épaules. Oui, et c'est vrai que par rapport à Dieu, mais je reviens toujours, et je voudrais quand même mettre l'accent sur ceux qui sont dans le silence et qui sont victimes innocentes. C'est important. Souvent, on parle du péché, on parle de toutes ces choses qui sont liées au mal, mais on oublie les autres. Hein. Et les autres, ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin de faire une expérience. D'en arriver quelquefois à ne plus supporter la médiocrité de notre vie à cause de ce fardeau dont nous y sommes quelquefois pour rien, de ne pas rester dans une misère qui devient intolérable. Et je pense qu'il y a toujours un point. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Et quelque part, même dans cette perspective que Dieu veut nous voir délivrer, qu'il veut nous voir libérer de toutes sortes de choses, eh bien c'est que parfois ça va monter là. La tension va monter, le mal va augmenter. et nous allons croire parce que nous sommes complètement irrécupérables ou même voilà que tout est perdu. Mais c'est à travers justement cette montée qui revient là et de ne plus pouvoir finalement le supporter, de soupirer après une délivrance. Et c'est là où intervient la deuxième phase de notre message, c'est que du silence nous passons au cri. Alors on va définir un peu ça. Du silence dans lequel je suis prisonnier, dans lequel on m'a renfermé, alors que j'ai tant de choses à dire, j'ai tant de choses à faire remonter à la surface pour être lavé, pour être, réhabilité, si j'ai été accusé à tort, d'être purifié des souillures, peut-être que l'on a commises sur moi. Alors, à un moment donné, eh bien, Dieu va permettre que le mal, c'est comme un abcès, il va falloir qu'il s'infecte encore de plus en plus, qu'il y ait véritablement là, eh bien, une inflammation et qu'à un moment donné, eh bien, la main du divin médecin va mettre sur la plaie et va nous guérir. C'est terrible, hein, tout cela, mais c'est un processus. On n'est pas dans un monde où tout est parfait, tout est pur, tout est juste. On est dans le monde contraire, finalement. Et les blessures que nous pouvons avoir, eh bien, néanmoins, il faut savoir que Dieu veut les guérir, ces blessures. Alors, espérez dans la délivrance et jusqu'au point, même s'il y a une amplification de mon mal, alors à ce moment-là, je vais m'approcher. Et il faut sortir de cette servitude d'un secret dévastateur, parce qu'il y a des choses que nous portons. Vous savez, dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, encore aujourd'hui, combien de gens, par toutes sortes de circonstances, dans des contextes particuliers, petits ou grands, adultes ou enfants, ou peu importe, portent des secrets, que l'on pourrait peut-être appeler des secrets de famille, ou même des méchancetés, toutes sortes de choses. Et ça, ces secrets, il faut en parler à quelqu'un. C'est pas possible. En tous les cas, il y en a un qui est tout à l'écoute, et nous allons le voir, parce que le psaume 68 nous dit « Mais quand on nous accable, quand on nous acclame, Dieu nous délivre. Il est pour nous, il est pour moi, le Dieu des délivrances. » Oui, Seigneur, je me suis tu. Je suis resté dans le silence parce que j'avais peur, parce que je n'osais pas parler. Parce que finalement, même en étant victime, même en étant innocent, eh bien, c'est comme si j'étais le coupable dans tout ça. C'est terrible, hein. Parce que vous savez, c'est que Dieu guérit. Il est le seul à pouvoir nous guérir de ces maux intérieurs, de nous délivrer de nos secrets mortels, de toute cette misère que nous portons, et c'est lui qui nous rend la vie. Il y a des gens qui ne vivent pas, qui existent. Et vous savez, ils existent tout simplement parce qu'ils sont en état végétatif, en raison, non pas peut-être, ils peuvent réussir à l'extérieur, ils peuvent réussir dans les affaires, ils peuvent avoir tout ce dont ils espèrent dans cette vie, mais c'est à l'intérieur que ça ne va pas. C'est terrible. Et Dieu rend la vie. Il nous donne la vraie vie. Il guérit, il rend la vie. Dans Ésaïe chapitre 59, et au verset premier, il est dit cette parole que nous avons dans notre Bible. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Vous avez vu l'action de Dieu, sa main et son oreille. Oui, Dieu guérit. Combien nous avons vu dans l'Évangile, combien de fois Jésus étend sa main. Et combien il est à l'écoute des prières, des cris, de toutes sortes de choses. Non, sa main n'est pas trop courte. Et ses oreilles, eh bien, il n'est pas sourd. Et dans un premier temps, c'est Jésus qui résumera avant. Là, c'est le silence. Bientôt, on va parler des cris. Mais Jésus nous dira ceci dans Jean chapitre 8, et au verset 36, je crois. Il dira, mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut croire qu'il y a une délivrance. Il faut croire que Dieu a le pouvoir et qu'il a le vouloir de ce que nous soyons délivrés. Et je le répète encore, ce silence captivant, ce silence qui nous enferme, c'est quelque chose qui ne se voit pas à l'œil nu comme ça. Chacun le porte. Ou tous ceux qui ont été peut-être maltraités le portent. Alors maintenant, nous allons passer tout simplement, eh bien, aux cris. Le silence et les cris. Et dans Matthieu chapitre 20, il est dit cette parole, vous la connaissez parce qu'elle fait l'objet quelquefois d'un entretien d'évangélisation. Et au verset 30 et 31, il est dit ceci, cette parole. Vous savez, c'est l'histoire de ces infortunés de la vie. Ceci, dans ce petit paragraphe, ce sont des aveugles. En l'occurrence, ce sont des gens qui sont renfermés, tout simplement dans l'obscurité, ils sont aveugles. Et au verset 30, il nous est dit « Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et ils crièrent. Et ils crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Écoutez la suite. « La foule les reprenait, parce qu'il y a toujours des gens bien intentionnés, qui sont là, eh bien, à faire le contraire, et à nous amener à refouler, finalement, ce qui devrait sortir. Alors, la foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort, ils criaient encore plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Alors, ils criaient. J'aimerais simplement mettre devant vous ce que peut représenter les cris. Voilà. Les hommes crient, le monde animal crie. J'ai voulu faire un petit tour d'horizon ce soir. J'ai été revoir, mais je ne vais pas vous les citer parce qu'il y en a quand même quelques-uns, les cris des animaux. Vous savez, chaque animal a un cri particulier, a une expression particulière. Vous savez comment fait l'âne? Ouais, il braie. Le chameau, un animal très courant chez nous, hein. Il blatère. Hein. Le cheval. Bon, j'arrête, hein, parce que autrement, je vous emmenais. Voilà. C'est pas les plantes, hein. Elles ne crient pas. Les pierres crient. Ça vous rappelle quelque chose? Jésus. On voulait que les choses soient dans le silence quand Jésus annonçait l'évangile, et pour tous ses ennemis, il dira, vous voulez faire taire les enfants? Qui sont en train de proclamer la louange de Dieu, et ben je vous dis que si vous les faites taire, ce sont les pierres qui crieront. Et elles crient encore aujourd'hui, 2000 ans après, hein, les pierres. Hein. Alors, mais enfin, ça va se cantonner aux hommes et aux animaux, hein, d'accord. Le cri exprime les sentiments et les émotions de la vie, quelles qu'elles soient. Quelles que soient les émotions et les sentiments de la vie. Et vous savez que le premier cri de tous, c'est le bébé qui vient de naître. Et on est content qu'il crie, parce que s'il crie pas, c'est quand même inquiétant. Alors, la sage-femme, elle le prend, elle n'a pas besoin de déshabiller, parce que vous savez, quand ils arrivent, il n'y a pas de problème. Et hop, voilà, et ça, il pousse des cris. Et c'est bon signe, parce que ça permet au poumon de prendre l'air, et ainsi, bien la vie commence. C'est comme ça que c'est passé, hein. Vous en souvenez? Le premier cri de la vie, et voilà. Et c'est un cri pourtant. Après, quand il crie jour et nuit, c'est une autre affaire. Mais comme c'est parti, ça y est, hein, c'est fini, on peut plus l'arrêter. Mais c'est pas seulement petit, c'est pas seulement nouveau-né. L'homme peut crier toute sa vie, hein, de différentes manières. Hein. Alors, les cris peuvent exprimer la joie, la gaieté, l'euphorie. Vous savez, un match de football, vous l'avez entendu quelquefois? Bon, le dimanche matin, au culte, ça devrait être des cris de joie. D'ailleurs, c'est biblique, hein? Ah ouais? Alors, libérez-vous, hein. C'est le bonheur d'être ou d'avoir. Il y a des gens qui crient. Vous savez, il y a des gens qui viennent de gagner, là, quelque chose. Ah, ils poussent des cris, ils sont contents, ils sont heureux, hein, c'est le bonheur. Puis le bonheur d'être. Il est peut-être beaucoup plus modeste, ce cri du bonheur d'être. J'entendais quelqu'un qui parlait dernièrement et qui disait, mais, le bonheur, finalement, il est dans les choses les plus simples. Mais de savoir pouvoir les reconnaître et de quelquefois de dire, Seigneur, dans l'adoration, Seigneur, eh bien, reçois mes cris de joie et d'allégresse. Je suis heureux de t'appartenir et de te connaître. Alors, c'est des cris aussi, hein. L'enthousiasme, je vous ai parlé des footballeurs, hein, ça fait du bruit quelquefois. Vous avez déjà été dans une cour de récréation ou dans une cantine d'enfants? Oh, c'est silencieux, hein. On se croirait dans un monastère, hein, c'est... Terrible, hein, parce que ça bouge dans tous les sens. Ça peut être les cris de surprise. Ouais. Ah, c'est le premier, hein. Ouf. Puis il y en a d'autres, hein. Ce sont des onomatopées, je crois, hein. C'est comme ça qu'on a. Onomatopées, hein. C'est ça, hein. Onomatopées. Alors, ça s'exprime. Ça peut être l'étonnement. Ouh. Ça vous va? Je fais bien. L'extase. Ah, oh, là, là, c'est extraordinaire. La déception, ouais, voilà, ça ressemble un peu à... Le désappointement, oh, c'est dommage, ouais, mais c'est, on l'exprime. Quand c'est la joie, c'est beaucoup plus fort, hein. Quand c'est plutôt dans le sens négatif, c'est autre chose. L'interrogation, Ça peut être l'interrogation, le pourquoi, le comment et tout ça. Et voilà, ce sont des expressions. La peur. Là, c'est écrit, hein, c'est terrifiant. Hein. La peur, la stupeur, l'effroi, la terreur. Alors, ça va en crescendo. Hein. Quelquefois, ça change même les couleurs du visage. Hein. C'est terrible. Il peut y avoir la colère, les gens qui crient de colère, qui injurient, profèrent des menaces. Ce peut être, tout ça c'est la violence, naturellement. Hein. Peut-être l'effort, quand vous soulevez quelque chose, ouf, puis après vous apercevez que vous avez fait un... Hein, alors après vous criez, vous avez des raisons de crier, naturellement. Hein. L'appel à l'aide, pour ceux qui sont peut-être perchés sur un rocher, comme ça m'est arrivé il y a quelque temps. Des gens, il y avait deux garçons qui étaient du côté du croisé, qui s'étaient passé une belle après-midi, c'était formidable, mais ils s'étaient pas aperçus que la mer était remontée. Hé, ils criaient, ils ont été obligés de les venir chercher avec un canot et tout ça. Ils étaient pas, vous savez, dans la côte sauvage, là. Et il y a des vagues, hein. Et ils étaient pas très fiers, hein, les gars. Ils pouvaient pas absolument passer d'un rocher à un autre, hein. Ils étaient au milieu, tout simplement. Et ils criaient à tous ceux qui, bon, alors, on a, il y a des gens qui ont téléphoné pour aller les chercher. Alors, ça peut être pour de l'appel à l'aide, hein, toutes sortes de choses. C'est la douleur. Sur le lit de maladie, c'est tout simplement la souffrance, ça peut être la peine. Quelquefois, lorsque nous sommes touchés par une dévastation, une grande peine, par des choses qui sont terribles, alors on pleure, on crie quelque part. L'angoisse, la détresse. Vous savez qu'on n'est pas les seuls à crier. Il y a plein d'histoires, et il y a plein de... Si vous regardez une concordance biblique, vous verrez... J'ai jeté un petit coup d'œil, je me suis dit, mais c'est incroyable, le mot cri, ou le verbe crier, combien ça revient, et dans toutes sortes de circonstances, il y aurait des dizaines et des dizaines de messages que l'on pourrait faire simplement sur un texte, par rapport au cri des hommes, naturellement. Mais moi, je voudrais vous dire qu'il y en a un qui a poussé un cri. Jésus, il nous est dit dans la Bible, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, peu importe, il nous est dit que, avant de mourir, il a poussé un grand cri. Je crois qu'il a poussé des cris à Gethsémané aussi, à tel point que ça devait être quelque chose d'horrible. Ce problème qui est survenu à un moment donné dans l'angoisse de la mort, de la perspective de la mort, à tel point que Jésus, il nous est dit qu'il transpirait des grumeaux de sang. Mais c'est quand même, finalement, eh bien, sur la croix, qu'il nous est dit qu'il a poussé un grand cri. C'était un cri qui mettait un terme à toutes ses souffrances, c'est vrai, mais c'était un cri pour dire, eh bien, la victoire a maintenant été remportée. Vous savez, les gens qui sont sur les champs de bataille, que les meneurs d'hommes, de soldats, les militaires, quand ils remportent une victoire, ils crient. Alors, ils ont fait crier ceux qui sont maintenant leurs vaincus et qui crieront encore très longtemps. Mais le vainqueur, il crie. Et Jésus a crié en deux victoires. De cette victoire, pour que lui ayant crié, nous ne crions plus. Que nous puissions véritablement nous réfugier en lui en disant, mais c'est vrai que c'est lui qui a donné, finalement, eh bien, la signature de sa victoire à la croix en criant. Il nous est dit qu'il poussa un grand cri et il a expiré. Une nouvelle page s'ouvre. Et toute notre foi, elle est dans le sacrifice de Jésus. Elle est dans la victoire qu'il a remportée, dans le triomphe, sur la mort, sur la souffrance, sur nos maladies, sur tous nos désespoirs, sur, eh bien là, tous les cris qui ont été renfermés du silence. Hein. On avait fait un message en deux parties, les cris du silence sur les enfants qui sont victimes de la séparation des parents. Vous ne croyez pas que ça crie aussi de ce côté-là? C'est terrible, hein? Les cris du silence. Et je reviens, avant de terminer, au psaume 34 que nous avons lu. « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses souffrances. » Quand un malheureux, quand une malheureuse, quand, eh bien, en effet, nous sommes dans toutes sortes de situations. Celle dont nous avons évoqué avec David, qui était coupable dans sa dévastation de son âme par rapport à des fautes qu'il avait commises, quand un malheureux crie, et il pourra l'écrire, David, et s'il l'a écrit, c'était certainement par rapport à une multitude d'expériences qui était de son tort, qui était son tort, mais qui était aussi, lui-même, en partie aussi, en tant que victime. Il pourra l'écrire en lettres de feu, quand un malheureux crie, mais l'Éternel l'entend, c'est ta main et tes oreilles, Seigneur, ta main qui délivre et tes oreilles qui entendent des cris. N'ayons pas honte et n'ayons pas de scrupules de crier devant le Seigneur. Ça vous est certainement arrivé. Ouais, les uns et les autres. Alors ça se dit pas, hein, naturellement, ça reste véritablement dans notre profonde intimité. Mais de dire, Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, délivre-moi de cette souffrance. Je suis tellement malheureux ou malheureuse. Eh bien, sachez une chose, c'est que la réponse, nous l'avons. Eh bien, quand c'est ainsi, eh bien, l'Éternel l'entend. Et à ce moment-là, il étend sa main pour nous donner la délivrance. Alors du silence dont nous avons parlé tout à l'heure, le silence est l'expression d'une attente patiente. Il y a un temps pour toute chose, un temps où nous nous taisons, un temps où nous attendons peut-être quelque chose qui va nous donner l'occasion, l'opportunité de pouvoir aller plus loin que le silence, dépasser le silence. Et c'est quand même une étape de foi, ça prépare les choses, de passer du silence au cri. Et le cri, c'est une volonté déterminée, tout simplement, eh bien là, de recevoir l'exaucement. Si ce sont les hommes, ils donneront ce qu'ils auront, ils donneront ce qu'ils pourront. Ils donneront ce qu'ils sauront peut-être pouvoir faire. Mais quand c'est Dieu, il peut tout. Il sait tout et il connaît. Alors à ce moment-là, eh bien, nous passons de cette étape du silence au cri. Et Jésus nous en rappelle le développement. Et je termine sur cela parce que je pense que, me semble-t-il, dans ma pensée, en tous les cas, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur, ça correspond tout à fait. Eh bien là, pour conclure cette réflexion sur du silence au cri, quand Jésus nous dit ceci, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Voilà, c'est ce que Jésus nous dit. Et Jésus veut tout simplement nous amener à considérer le développement du processus. Demandez, chercher et frapper. Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Nous passons d'une simple demande. Nous allons dans une prière d'insistance, une prière importune. Et ensuite, nous allons crier parce que finalement, tout est prêt pour que nous puissions, à l'intérieur de nous-mêmes, pour pouvoir, aller au-delà de ce silence, sortir du silence, c'est souvent explosif, pour crier. Le cri, c'est une explosion qui manifeste tout simplement quand c'est fait dans la foi, quand c'est pris dans le caractère de la foi, mais qui manifeste qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors à ce moment-là, on ne demande pas, on ne cherche pas, ou on ne cherche pas autant, mais on va beaucoup plus loin, on frappe. On frappe à la porte de Dieu en disant « Seigneur, je crie devant toi maintenant ». Ce sont les aveugles, c'est Bartimée, c'est toutes sortes de situations que nous avons dans l'Évangile pour nous montrer. Alors, je dis et je termine, plus que prier, crier. Plus que prier, quelquefois il y a des situations dans notre vie, c'est de crier au Seigneur. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Du silence au cri, merci Seigneur, parce que tu entends tout cela. Et moi je dis, ta main n'est pas trop courte pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous apporter ce dont nous avons besoin à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, l'Esprit est sur moi, dit Jésus. Il m'a envoyé pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir les cœurs brisés. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, le monde est un monde de souffrances et de peines. Alors il y a des souffrances visibles, il y a ce que nous pouvons constater, ce que nous pouvons voir, là que nous pouvons peut-être soigner, penser, accompagner. Mais il y a, en effet, Seigneur, des souffrances qui sont beaucoup plus intériorisées. De celles, Seigneur, dont nous avons parlé ce matin, cet après-midi, ce soir, des souffrances, Seigneur, qui sont dissimulées derrière des jours, des semaines, des mois, Seigneur, de silence, qui sont emmurées, Seigneur, dans des secrets profonds, des secrets empoisonnés, des secrets, Seigneur, qui sont toxiques. Mais, Seigneur, il arrive un moment, Seigneur, qu'en effet, nous pouvons nous approcher de toi, et que là, la pression est si forte, que nous en arrivons non seulement à te demander, non seulement à rechercher ta face, mais vraiment, Père éternel, à frapper à ta porte pour nous dire, Seigneur, je veux que maintenant ce problème soit résolu. Alors s'il y en a un qui est digne de confiance, à tout te dire, à tout avouer, à partager avec toi, toi qui connais les coupables et qui connais les innocents, toi qui connais, en effet, Père éternel, les coupables et les victimes, Seigneur, dans le nom de Jésus, c'est les deux que tu accueilles. Lorsque chez le coupable, il y a une repentance, et chez la victime, il y a véritablement, Seigneur, eh bien, cette recherche d'une main qui guérit, qui est capable d'apaiser nos cœurs, de nous rendre la paix, de nous apporter la joie, Seigneur, et d'une liberté, Seigneur, qui nous donne de vivre, Seigneur, eh bien, tout simplement déchargé, libéré, délivré. Seigneur, tu nous bénis ce soir pour ta parole. Elle agit par ton Saint-Esprit, parce qu'il y a des mots, mais derrière les mots, il y a une action d'en haut, une action puissante. Pour ceux et celles, eh bien, qui partagent, en effet, Seigneur, ce message de l'Évangile, et qui là, Seigneur, eh bien, peuvent s'approcher de toi en cet instant, et te dire, eh bien, Seigneur, oui, maintenant, c'est ton esprit qui fait ton œuvre, puisque tu nous as rappelé encore que véritablement le plus grand cri qui n'ait jamais résonné sur cette terre, c'est quand Jésus, véritablement, juste avant de mourir, eh bien là, il nous est dit que sur la croix, il a poussé un grand cri pour que nous n'ayons plus à crier. Merci mon Dieu, merci Jésus. Amen, amen. Voilà, que Dieu nous bénisse ce soir à travers sa parole et de la garder dans notre cœur, et c'est une parole, je vous le dis, hein, par-delà même les hommes qui peuvent et qui savent entendre, c'est vrai, mais en tous les cas, le Seigneur, lui, est capable d'aller au-delà de tout cela. Alors, soyons libérés.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.